Campallina, corsara, cacicara, eo, abayul, yo la mabre, campaí.
Ok, ça va?
Ça va très bien.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, on dirait qu'une petite révolution est en train de se passer dans les couloirs du 51e Salon International de l'Agriculture. Il y a toujours les vaches, les cochons, les spécialités du monde à déguster et les quelques 700 000 visiteurs qui circulent entre les 1300 stands des exposants venus de plus d'une vingtaine de pays ne s'en privent pas. Mais c'est plutôt dans le discours. Si en 2011, un président avait déclaré dans ces mêmes allées que l'environnement, ça commence à bien faire, eh bien en mettant à l'honneur l'agriculture familiale, dont c'est l'année internationale pour les Nations Unies, les politiques semble enfin prêt à reconnaître les limites de l'agro-industrie. Le thème de ce 51e salon, l'agriculture en mouvement, pourrait donc aller dans le bon sens si et seulement si les actes suivent les discours. Avec nous pour en parler dans ce studio, installé dans le hall 4, sur le stand de l'Agence française de développement et du CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement, deux ministres. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Pascal Canfin, ministre délégué au développement, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de vous donner la parole, messieurs, je vous propose d'écouter la définition de l'agriculture familiale que nous a donnée l'agronome Marc Dufumier dans l'émission la semaine dernière.
L'agriculture familiale, c'est des gens qui travaillent pour leur propre compte. Souvent, c'est des gens qui se transmettent leur ferme d'une génération à l'autre et qui connaissent déjà bien leur patrimoine, leur pays, comme on dit. L'agriculture familiale est très souvent une agriculture paysanne, ancrée dans son environnement et qui essaye de valoriser au mieux les potentialités productives de leur petit pays. Si on se réfère au rendement à l'hectare et notamment à la valeur ajoutée, on dit en économie, à l'unité de surface, les gens qui travaillent pour leur propre compte, et notamment dans les pays où il y a beaucoup de chômage, tentent à faire un plein emploi de leur force de travail familiale, en essayant d'échelonner les temps de travaux, en essayant de diversifier du coup les cultures et les élevages dans leurs fermes. Et ce faisant, c'est eux qui pratiquent des systèmes de production extrêmement diversifiés, qui sont à la fois très productifs à l'unité de surface, mais au prix d'un travail en général très soigné, à l'inverse de l'agro-business, qui tente à investir du capital, à vouloir maximiser le taux de profit, à vouloir rentabiliser l'investissement qui est fait dans la machine en pratiquant de la monoculture, c'est-à-dire sur les plus vastes surfaces possibles, et qui pratique justement des rotations et des assolements extrêmement simplifiés. Et ça, c'est à la fois dommageable pour l'environnement, et finalement, ça ne produit pas nécessairement beaucoup à l'hectare. Disons que ça produit beaucoup par actifs agricoles restants, parce qu'on a mis tous les autres au chômage, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'intérêt général.
L'agriculture familiale qui produit aujourd'hui l'essentiel de la nourriture dans le monde est donc meilleure pour l'intérêt général, selon Marc Dufumier, que l'agro-industrie. Vous êtes d'accord avec ce constat, Stéphane Le Foll ?
Oui, je suis assez convergent avec l'analyse de Marc Dufumier. Je pense que dans le débat qui nous occupe aujourd'hui au niveau de l'agriculture à l'échelle mondiale, pour arriver à relever les défis qui sont ceux de la lutte contre la faim dans le monde et qui sont ceux de la durabilité de l'agriculture, vaut mieux des chefs d'exploitation, des agriculteurs responsables sur des exploitations que des gens qui viendraient investir avec des objectifs derrière de rentabilité du capital investi. C'est pas du tout la même logique. C'est pourquoi on a, avec Pascal Canfin depuis le début, signé un engagement de l'État et du gouvernement sur cette agriculture familiale. Parce que je pense que dans ce débat, défi alimentaire et défi de la durabilité, vaut mieux des chefs d'exploitation responsables. C'est comme ça qu'on assure la pérennité de la production et en même temps sa durabilité.
Alors Pascal Canfin, ça veut dire donc qu'on reconnaît aujourd'hui que l'agro-industrie a atteint ses limites en termes de création d'emplois et de durabilité.
Dans le débat mondial, clairement, aujourd'hui, ce dont nous faisons la promotion, c'est l'agriculture familiale. Et c'est pour ça que nous voulons que cette année internationale de l'agriculture familiale, ce ne soit pas qu'une succession de colloques, de débats, de réunions, mais que ça permette de gagner la bataille culturelle. Parce que concrètement, lorsque vous discutez avec beaucoup de responsables politiques et économiques en Afrique, aujourd'hui, leur vision de qu'est-ce qu'une agriculture moderne, c'est de l'agro-business. C'est de faire venir des investisseurs étrangers avec des conditions fiscales très favorables, de leur louer, voire plus, les terres les plus arables, et ensuite de les faire produire essentiellement pour de l'export. Ça ne permet pas d'assurer là, le maintien de l'emploi dans les zones rurales. Ça ne permet pas d'assurer de la souveraineté alimentaire, ça ne permet pas d'assurer l'avenir de la jeunesse des pays du Sud. Et donc c'est pour ça que nous voulons gagner cette bataille culturelle, parce que toutes les études dont on dispose montrent que c'est l'agriculture familiale dans sa diversité. Il ne s'agit pas de la réduire à l'agriculture vivrière locale, dans sa diversité, qui est la clé de la réponse pour nourrir le monde et protéger l'environnement.
Mais alors en France, à peine 4% de la population active française travaille aujourd'hui dans l'agriculture, alors qu'en volume, la France est quand même le 5e exportateur mondial de produits alimentaires, donc on ne peut pas dire, Stéphane Le Foll, que ce soit le modèle de l'agriculture familiale qui prime en France aujourd'hui.
Oui, mais en même temps, c'est toujours le paradoxe de toutes ces analyses. Qu'est-ce que l'agriculture française? Si je la compare, par exemple, à l'agriculture des USA.
Ah bah oui, là, forcément.
Oui, mais je vous rappellerai que les USA ont 3 fois moins d'agriculteurs que l'Europe tout entière. Et ils font 1,5 fois moins de valeur ajoutée que l'Europe. Donc on n'est pas du tout... Il faut bien intéresser ça, même... Pour les productions céréalières, on est à 200, 150, 200 hectares de moyenne. On n'est pas sur les grandes exploitations qu'on connaît ailleurs. En même temps, il y a des phénomènes qui sont observés. C'est vrai que la productivité du travail en agriculture a été considérablement modifiée, elle a augmenté. Ce qui fait qu'il y a moins d'agriculteurs pour produire plus que ce que pouvaient produire plus d'agriculteurs il y a encore 15-20 ans. Ça, c'est aussi des logiques qui sont à l'œuvre. Difficile de les contrarier parce qu'elles sont liées aux évolutions du progrès technique. Mais en même temps, il faut avoir une stratégie. C'est-à-dire où on laisse aller tout ça jusqu'au bout de sa logique et on n'a plus d'agriculteurs, plus de chefs d'exploitation, plus de paysans, où on met partout des cliquets pour faire en sorte que même si la productivité et les progrès existent, eh bien, on limite leurs effets pour garder des agriculteurs, des paysans, des éleveurs à la tête d'exploitations agricoles.
Alors Pascal Canfin, pour les pays en développement qui sont en train de choisir finalement leur modèle agricole, l'enjeu est de taille, puisque par exemple en Afrique subsaharienne, les petits paysans représentent, à l'inverse de ce qu'on disait pour la France à l'instant, 80% de la population active et le secteur agricole, c'est près de la moitié du produit national brut.
Et c'est pour ça que nous avons pris la décision avec l'Agence française de développement de donner la priorité dans l'argent que nous déployons dans les pays que nous aidons, donner la priorité à l'agriculture familiale. Nous avons fixé, c'était l'année dernière, un certain nombre de règles aux investissements agricoles de l'AFD. Première règle, ils doivent donner la priorité à l'agriculture familiale. Nous avons augmenté l'enveloppe de l'Agence française de développement pour l'agriculture familiale de 400 millions d'euros. Deuxième règle, l'AFD ne peut plus financer des exploitations agricoles qui contribuent à la déforestation de forêts primaires. Et troisième règle, l'AFD ne peut plus financer d'OGM. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui un cadrage politique de l'aide publique au développement de la France dans le domaine de l'agriculture.
Alors on reviendra dans le détail sur la façon dont la France accompagne le développement de cette agriculture familiale tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
RFI. La destruction des mauvaises herbes a fait d'immenses progrès. Grâce au progrès de la lutte chimique contre les végétaux nuisibles, les perspectives d'avenir des agriculteurs s'améliorent. Les chimistes recherchent de meilleures méthodes pour détruire les végétaux nuisibles. Leurs découvertes d'aujourd'hui seront demain de nouveaux progrès dans la lutte contre les plantes nuisibles.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Nous sommes au Salon international de l'agriculture avec Pascal Canfin, ministre du Développement, et Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Alors Stéphane Le Foll, ça vous a fait sourire, nous venons d'entendre un extrait d'un reportage qui a été tourné aux États-Unis en 1955. Voilà comment, il y a près de 60 ans, on traitait les mauvaises herbes. Mais l'industrialisation à outrance, l'artificialisation des sols, le recours massif aux intrants chimiques montrent aujourd'hui leurs limites. Fin 2012, vous avez déclaré que vous souhaitiez faire de la France un leader de l'agroécologie. Alors même s'il y a des exploitants agricoles qui ne vous ont pas attendu pour le faire, vous venez de sélectionner 103 projets que vous allez accompagner. Alors cette dynamique implique quand même une profonde remise en question des systèmes de production et ça ne plaît pas à tout le monde.
Ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas évident pour certains. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de ce qu'on appelle des pionniers. Il y a l'agriculture biologique qui a existé, qui a été pionnière dans la démarche pour ne pas recourir à ce qui a été présenté dans la publicité juste avant. Et puis, il y a d'autres démarches, au-delà de l'agriculture biologique, qui sont faites par des pionniers, qui essayent de faire en sorte qu'on garde un haut niveau de production, parce qu'il y a les questions posées sur le revenu, puis il y a les questions du défi alimentaire, mais en même temps avec des solutions qui ne soient pas simplement le côté je sème quelque chose et j'évacue et j'élimine tout ce qui pourrait venir le concurrencer autour. Au contraire, on cherche à utiliser des mécanismes naturels pour venir aider à la production. Ça, c'est ça le changement. L'agroécologie, elle est là. L'INRA, depuis 2012, ce que j'avais dit, a mis en place une chaire sur l'agroécologie. J'en discutais et on a eu une chercheuse qui est venue au moment de l'inauguration avec le président de la République, qui a bien expliqué ce qu'elle faisait et qui a bien donné une définition de l'agroécologie. Et c'était très intéressant. Donc je crois, je pense, et c'est ça la stratégie, éducation, recherche, enseignement, plus les pionniers, diffusion, c'est les groupements d'intérêt économique et environnementaux, on crée une dynamique, on crée quelque chose qui ouvre des perspectives. Et à partir de là, ben, on essaye de l'accompagner. C'est comme ça qu'on fera les changements.
Alors François Veillerette, président de l'association Génération Future, nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez deux questions à poser à Stéphane Le Foll. La première, c'est sur l'affaire Emmanuel Giboulot, qui est donc un viticulteur bio qui s'est retrouvé lundi dernier devant le tribunal correctionnel de Dijon pour avoir refusé de traiter ses cépages de chardonnay et de pinot noir contre la flavescence dorée.
Oui, ma question, c'est pas pour relancer une polémique sur le sujet, c'est pour essayer d'être constructif. Et certains de mes amis en responsabilité de l'agriculture bio en Bourgogne m'ont dit, mais nous, il y a une dizaine d'années, on avait proposé au service de l'État de résoudre le problème de la flavescence en traitant les plants préventivement, en les trempant dans de l'eau chaude à 50 degrés. C'est une méthode qui est validée, on sait que ça fonctionne, mais les services de l'État, donc en région, ont refusé d'adopter cette méthode-là pour continuer sur une méthode finalement chimique, dont on voit aujourd'hui qu'elle aboutit à des situations très complexes à gérer, puisque on voit un viticulteur qui a refusé, bio, qui a refusé d'utiliser un produit insecticide, surtout devant un tribunal. Donc, est-ce que c'est pas la preuve justement qu'on doit, dans le cadre de l'agroécologie que vous préconisez, mettre le paquet sur les solutions de prévention plutôt que curative ?
Sur cette question, il y a toujours aussi après une responsabilité sur une maladie contagieuse. Est-ce qu'on prend des décisions pour éviter que l'ensemble des cèpes, et on est en Bourgogne avec tous les enjeux que l'on connaît, soient contaminés ou pas ? Je considère que le préfet a pris une décision qui consistait à protéger les cèpes de l'ensemble de la région. Et que c'était nécessaire, et personne, je le rappelle, et c'est pas moi en tout cas qui le ferai, n'empêchera aujourd'hui les viticulteurs de passer du conventionnel au bio, au contraire. Donc voilà les termes du débat. Il y a une responsabilité collective, et je rappelle que toutes les épizooties, toutes les épidémies qui ont pu exister dans l'histoire de l'humanité, elles datent pas ni du conventionnel en termes agricoles, ni de l'arrivée de la bio. Donc on est bien obligé à un moment de prendre des décisions. C'est trouver une balance entre le coût et le bénéfice. Là, aujourd'hui, un seul viticulteur qui n'a pas voulu utiliser, d'ailleurs il y a des produits qui peuvent être utilisés et qui sont acceptés dans l'agriculture bio à base en particulier d'une matière active liée à la chrysanthème. Bon, il n'a pas voulu faire, je pense que compte tenu du risque qu'il y avait, c'était pas bien. J'ai vu le réquisitoire du procureur, c'est pas non plus le coup de massue, c'est une manière de rappeler les règles tout en considérant qu'il y avait là quelque chose à faire. Mais moi, je suis pour la prévention.
Alors, sur cette histoire, on sera fixé le 7 avril. Et en effet, la procureure a requis une peine de 1 000 euros d'amende, dont 500 euros avec sursis. François Veillerette, vous aviez une autre question.
Oui, alors plus généralement, sur cette question des pesticides, vous, d'un champ de l'agroécologie, alors la définition est plus ou moins claire. Donc, effectivement, une partie de ma question, c'est quelle est pour vous l'agroécologie et quelles sont les pistes pour vous pour réellement arriver à réduire l'usage des pesticides dans le cadre du plan Ecofido? Parce qu'on voit bien que ça ne produit pas les résultats escomptés aujourd'hui. On a une petite polémique par l'intermédiaire d'un journal du soir, puisqu'il y avait une petite contestation sur les chiffres, mais grosso modo, on voit quand même qu'on a des difficultés à passer vers un système beaucoup moins dépendant des pesticides. Alors moi, je vois en tant que représentant de l'association des mesures intéressantes, à titre expérimental, notamment sur la fiscalité, dans la loi d'avenir agricole, hein, avec les certificats d'économie de pesticides. Je regrette un petit peu que ce soit uniquement un titre exploratoire. Je fais partie de ceux qui aimeraient que ça généralise pour qu'il y ait des mesures fiscales, une incitation fiscale forte pour les coopératives à vendre beaucoup moins de pesticides et plutôt à préconiser d'autres méthodes. Donc est-ce que cette méthode ferait partie de votre trousse à outils, à côté de quels autres outils pour arriver à réellement avoir des résultats dans le cadre d'Ecofito?
Oui, on a eu une petite polémique qui était très vilaine de la part de Génération Future. C'est-à-dire qu'elle a soupçonné le ministre d'être sous la pression des lobbies et de traficoter les chiffres.
C'est-à-dire que vous dites que ça a baissé de 5,7% et en gros, Génération Future dit ça stagne.
On va pas rester là-dessus.
La question,
moi,
c'est comment
arrivé,
passer des paroles aux actes.
Il y avait un objectif de baisser de moins 50% le recours aux pesticides d'ici 2018. Et quand je suis arrivé, je le dis, la consommation de pesticides de phytosanitaires a augmenté de 2%. Alors moi, je veux bien avoir comme ça des réalisations ou des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Donc ce que je mets en place, et c'est ce qui a été dit d'ailleurs, c'est on pourra baisser le niveau des phytosanitaires que si on réfléchit complètement au modèle de production. Parce que considérer qu'on le baisse comme ça sur les mêmes modèles, ben ça marche pas. Et d'ailleurs, la preuve a été faite. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est repartir du départ sur les modèles. Je constate qu'aujourd'hui, on commence à avoir des données très intéressantes pour diminuer de manière extrêmement importante ce qu'on appelle les IFT, c'est-à-dire les fréquences de traitement. Et qu'il y a dans des fermes, et on va essayer de réfléchir en termes régionaux, de se dire, on va avoir des moyennes qu'on va appeler économiques et environnementales, avec des IFT sur une région. Donc la moyenne, il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous. L'objectif, c'est de faire baisser la moyenne. Et comme ça, je suis sûr qu'en tirant les conséquences et les bénéfices de ceux qui sont en dessous et qui font mieux que ceux qui sont dessus, on amènera tout le monde à baisser les fréquences de traitement. C'est l'objectif, plus l'expérimentation. Alors pourquoi l'expérimentation ? Parce que on est sur un domaine très spécifique et sensible, où dès qu'il n'y a plus la possibilité d'avoir recours à un certain nombre de produits, en l'état actuel, eh bien, c'est la production elle-même qui est remise en cause. Donc difficile après de discuter avec les agriculteurs. Donc c'est ça que j'essaye de mettre en œuvre. Je pense qu'on va y arriver.
François Hiret.
Oui, alors l'idée d'avoir des moyennes régionales en fréquence de traitement est très intéressante, mais quels moyens vous comptez pouvoir mettre en œuvre pour inciter ceux qui ne voudraient pas rejoindre le gros du peloton dont la moyenne en fréquence de traitement à la rejoindre? Est-ce qu'il y a des
Bon, d'abord,
des,
il y a les MAE, hein, tous les discussions ouais. qu'on aura sur les MAE.
Puis alors, il faut expliquer
oui, ce que c'est. Vrai, vous avez raison. C'est à force de parler technique. Ça. Les mesures agro-environnementales liées à la politique agricole commune. Très important. Et les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, c'est-à-dire comment je fais pour regrouper des agriculteurs pour que ceux qui ont été pionniers ou qui ont de l'avance en termes techniques puissent diffuser aux autres les bonnes pratiques.
La preuve par l'exemple.
La preuve par l'exemple. Et comme ça fonctionne. Et les agriculteurs qui se regroupent créent des dynamiques. C'est d'autant plus intéressant pour les agriculteurs, soyons honnêtes aussi, c'est que derrière, économiquement, c'est intéressant. Parce que si on peut se passer de 2, 3, 4 traitements, eh bien ça coûte beaucoup moins cher. Donc c'est bon pour l'environnement et c'est bon en termes économiques. C'est ça la logique de la moyenne économique et environnementale.
Dernière question, Stéphane Le Foll, quand on parle d'agroécologie, l'un des principes de base, c'est l'équilibre entre l'élevage et l'agriculture. François Hollande, récemment, a encouragé, hein, a annoncé qu'il allait faciliter la création et l'extension des élevages industriels. Et d'ailleurs, depuis le 1er janvier, les éleveurs qui veulent créer ou agrandir une porcherie comprenant jusqu'à 2000 porcs ou 750 ruies n'ont plus à demander une autorisation à l'administration, mais simplement à s'enregistrer. Ça peut être surprenant par rapport à tout ce que vous venez de nous dire.
C'est pas surprenant dans la mesure où rien n'est remis en cause sur les règles environnementales qui sont celles qui doivent s'appliquer, en particulier vous parlez des établissements cassiers liés aux porcheries, la production de porc. Il y a des taux de matière organique par hectare qui restent les mêmes. Les engagements sont pris sur le respect de la loi, et c'est le préfet qui juge. S'il y a un problème, il y a à ce moment-là, parce que quelle est la procédure d'enregistrement, quel est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas l'étude d'impact et l'enquête publique. Ce qui fait que quelquefois, on passe 2 ans pour un projet qui, au bout du compte, sera validé. On souhaite, c'est le choix qui a été fait par le président de la République, avoir un choc de simplification. Pas pour remettre en cause les règles environnementales qui sont exigées et qui resteront, parce que c'est la règle européenne et c'est les règles qu'on applique, mais pour faire en sorte qu'un projet économiquement viable et respectant les règles environnementales aille plus vite pour l'agriculteur. C'est ça l'objectif.
François Veilleret.
Oui, avec une petite crainte de la part des gens, notamment de la Picardie, dont je viens, de si cette mesure était étendue aux bovins, aux vaches, d'avoir un signal pour la création de fermes de type 1000 vaches ou plus, voilà. Qui ne serait pas tout à fait dans le sens de ce qu'on souhaiterait voir se développer. Ce n'est pas très familial comme agriculture, 1000 vaches.
Non, alors après, le problème, ce n'est pas 1000 vaches. C'est combien d'agriculteurs derrière? Ça, j'arrête pas de le répéter. Parce que 1000 vaches, oui. Vous avez des GAEC hein, aujourd'hui. J'ai même été voir une exploitation bio à côté d'Amsterdam. Pays-Bas, c'est 200 vaches avec un robot de traite. Donc 200 dans une stabulation. Dans les polders. Bon, donc c'est pas le nombre de vaches qui est le problème là, en l'occurrence. C'est qu'il y a plus d'agriculteurs derrière. Il y a un investisseur qui a regroupé 6 exploitations.
Et là, on est à des kilomètres de l'agriculture familiale qui doit être pourvoyeuse
parce
emploi.
Que l'agriculture familiale telle que je l'ai définie, qui a été définie par Marc Dupumier tout à l'heure, c'est l'idée que derrière le capital qui est utile pour l'agriculture, derrière ce qui est le capital à la fois foncier et animal, il y a un chef d'exploitation, il y a un éleveur, il y a un paysan. Dans le système, là, il n'y en a plus. C'est ça le problème.
Voilà, alors depuis le 17 février, on attend le verdict du tribunal administratif d'Amiens qui autorisera ou non la poursuite du chantier de cette fameuse ferme des 1000 vaches. Stéphane Le Foll, on vous libère parce que je crois que vous avez
merci.
Des contraintes.
Oui.
Merci en tout cas d'être passé dans ces pas du vent. Merci beaucoup aussi François Veilleret. Pascal Canfin, par contre, vous restez avec
si
nous.
Si vous m'y autorisez.
Ouais, ça va être très
plaisir.
Intéressant, j'en suis sûr.
Voilà, vous ne bougez pas, on se retrouve avec les auditeurs juste après le flash d'info pour voir justement comment la France peut soutenir le développement de l'agriculture familiale, notamment en Afrique. À tout de suite.
Merci.
Conf.